Je ne sais pas si vous m'entendez très bien.
Oui.
Voilà. Donc, aujourd'hui, notre thème, comme on a dit, c'est la véritable compassion. Et j'ajouterai pour notre salut. Il y a trois textes qu'on a lu, qui va essayer de nous apprendre quelque chose de nouveau. Avant tout, il y a deux petites questions que j'aimerais vous poser. Mais je n'attends pas une réponse directe. Répondez dans votre intimité. La toute première question est de savoir pourquoi venez-vous à l'église tous les dimanches? Pourquoi êtes-vous là? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, s'il n'y avait pas de culte le dimanche, quelle serait votre relation avec Dieu? Je ne vais pas non plus une réponse. Répondez vous-même. Alors, le texte qu'on a lu, qui est le sujet de notre thème, il est basé sur l'histoire du bon samaritain, très bien connu de tous. Alors, justement, il faut savoir que l'histoire, ça ne se passe pas dans un contexte où les disciples de Jésus s'y réjouissaient. Ils revenaient d'une mission où ils étaient partis évangéliser. Et de leur retour, ils disaient à Jésus ce qu'ils ont fait. Voilà, les démons ont obéi, ils ont répondu, on a fait des miracles, c'était un moment de jouissance. Et soudain, à ce moment-là, il y a un docteur de la loi qui va poser la question à Jésus. Et de cette question, il y aura une réponse en parabole. Alors, quelle était la question qu'il a posée? La question, c'était: Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? C'était la question du docteur de la loi. Et la parabole que nous connaissons tous, du bon samaritain, ce serait la réponse qu'on va essayer d'étaler tout à l'heure, tout de suite, disons. Alors, la première remarque que j'ai fait dans ces textes, tous les personnages qui sont là, on cite les noms des personnes, ce sont tous des inconnus. Et ça, c'est ce qui m'a frappé premièrement. Pourquoi Jésus ne met pas les noms aux docteurs de la loi? Pourquoi il ne met pas les noms aux sacrificateurs, aux prêtres, aux lévites, aux brigands, ni à la victime? Alors, vite, je vais essayer de dire un mot sur les intervenants dans cette histoire des bons samaritains qu'on nous a dit par notre sœur Anne. Vraiment, les docteurs de la loi, c'est qui? Alors, c'est une expression religieuse dérivée du judaïsme qui veut dire tout simplement un savant, un spécialiste de la loi religieuse. Alors, sa principale fonction consiste à enseigner les autres. Et puis, la Bible nous parle qu'il y avait un prêtre qui passait par là. Malheureusement, comme par hasard, il passa outre. Il ne s'arrêta pas devant la victime qui était agonissante. C'est qui un prêtre? C'est qui un sacrificateur? Alors, il faut savoir, un sacrificateur, c'est une personne choisi de la famille, dans la famille d'Aaron. Merci pour la bonne musique. Ce sont les grands prêtres qui étaient choisis dans la famille d'Aaron, qui devaient se présenter dans la présence du Seigneur. Rappelez-vous l'histoire des tabernacles. Aujourd'hui, on peut dire l'image d'un pasteur qui tient une église. Et puis, il y a un lévite qui passait aussi, mais qui s'arrêta pas et continua sa route. C'est qui un lévite? Les Lévites, c'est tout simplement ceux qui ont été choisis dans la tribu des Lévi. Rappelez-vous, les 12 fils de Jacob. Et parmi les tribus, il y avait la tribu des Lévi. Et qui sont les Lévi? Ils étaient choisis pour être les serviteurs à l'église, c'est-à-dire les serviteurs de l'Éternel. Et puis après, ça vient ces messieurs qu'on appelle les bons samaritains. Jésus répond à qui? Un docteur de la loi qui était juif. Mais prends l'exemple de qui? D'un Samaritain. Il ne parlait pas d'un juif ici. Mais qu'est-ce qu'elle avait dire un Samaritain aux yeux des juifs? Un Samaritain, premièrement, c'est qui? Mais pour les juifs, c'est quelqu'un qui pratique des cultes impurs. C'est un païen. Mais ces païens, je suis pas comme ces païens le modèle de l'amour. De quoi énerver un juif, un docteur de la loi? Vous vous imaginez? C'est une provocation. Pure et simple pour tous les juifs qui étaient là. Car pour les juifs, les prochains, c'était quelqu'un ou un membre de sa tribu. Mais, or, Jésus vante ses Samaritains. Et le plus important, c'est qu'a fait les Samaritains, ce sont les réactions qu'il a eues vis-à-vis de la victime. Alors, la première réaction, il était ému de compassion, s'approcha, banda les plaies de la victime avec de l'huile, probablement de l'huile, versa de l'huile et du vin, et puis il va bander les plaies. Deuxième réaction, il va l'amener à l'hôtellerie où il sortira 2 pièces d'argent, le fruit de son travail, pour qu'on prenne soin de la personne. Et troisième chose, il s'engage à suivre l'évolution de la personne. Ça veut dire quoi? Il a dit à Lot, quand je retournerai, tout ce que tu aurais fait, je paierai. C'est interpellant. Le prêtre n'a pas pu le faire. Le lévite n'a pas pu le faire. Un païen va le faire. Bref, on peut dire, un samaritain ici, il est défini comme un exemple d'amour du prochain. Une personne inconnue qui se révèle au final une grande aide par sa compassion. Enfin, parlons de la victime. On ne cite pas non plus son nom. On sait qu'il a été dépouillé de ses richesses, laissé pour mort par les brigands. Mais les brigands, d'où venaient-ils? L'histoire se passe entre Jérusalem et Jéricho. C'est ce que nous dit la Bible. Mais on ne nous dit pas qui venait de Jérusalem, on ne nous dit pas non plus qui venait de Jéricho. Mais c'est quoi Jérusalem? Bref, c'est connu, c'est la ville sainte. Et c'est quoi Jéricho? Jéricho, c'est vraiment la ville qui a été récupérée par les Israélites, rappelez-vous, quand ils ont quitté Égypte pour posséder Canaan. C'était la première ville qui était tombée par des louanges. C'est une ville de forteresse, c'est une ville, on peut dire aussi, des divinités. Donc l'histoire se passe entre la ville sainte et la ville des divinités. On parlait des divinités, par exemple, de la ligne. Bref, les brigands ne sont pas définis, mais leur manière d'opérer ou d'agir, c'est connu. C'est comme nous dit l'évangile de Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Exactement ce qu'ont fait ces brigands. Mais pourquoi Jésus répond en parabole? Parce que le docteur de la loi avait répondu correctement à la question. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le docteur de la loi, il avait répondu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. D'autres versions disent, de toute ton intelligence. Et en deuxième, il dit, tu aimeras ton prochain comme soi-même. La réponse était correcte. Jésus a dit, tu as bien répondu. Et le docteur de la loi lui posa la question en deuxième, mais qui est mon prochain? Je vous ai dit tout à l'heure, pour un juif, un prochain, c'était un membre de sa tribu. C'était pour éprouver Jésus. Est-ce qu'il avait dit que pour les Lévites, le prochain c'était les Lévites? Pour les, par exemple, le Juda, c'était C'était la question du docteur de la loi. Mais j'aimerais bien qu'on s'arrête 2 minutes sur la première partie de la question qui semble un peu facile parce qu'elle dit pas que tu aimeras ton Dieu comme ton prochain, ainsi de suite. Ça ne posait pas un problème au docteur de la loi. Évidemment, il va dire à Jésus, c'est pas ça ce qui est important. Pour moi, ce que je ne comprends pas, c'est ça. Ce que je ne comprends pas, c'est qui est mon prochain. Mais la première partie, qu'est-ce que dit-il? Alors, premièrement, ici, on voit une relation verticale entre l'homme et Dieu. Tu aimeras ton Dieu. Premièrement, de tout ton cœur. Ça veut dire quoi, aimer Dieu de tout ton cœur? Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc la Bible nous invite ici à faire du Seigneur notre trésor. Le cœur de l'homme court derrière quoi? Derrière la richesse, derrière le trésor. Si le choix de ton cœur est le Seigneur, ben tu vas courir derrière le Seigneur. Donc le choix de nos vies découle des besoins et des désirs de nos cœurs. Deuxièmement, de toute ton âme. Qu'est-ce qu'on attend par de toute ton âme? Plusieurs versets reprend le discours sur l'âme, mais j'ai choisi Psaume 103, verset 2. David disait ceci: mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que notre âme soit la source d'adoration. Car la Bible dit aussi, les vrais adorateurs adoreront qui? Les Seigneurs comment? En esprit. Donc on voit bien que si notre âme est au Seigneur, on a une adoration sincère. Donc notre vie est sujet du Seigneur. De toute ta force. Mais qu'est-ce qu'on entend par ça? Plusieurs versets aussi répondent. Je vais peut-être citer 2 versets tout simplement. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous a été survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc notre fidélité au Seigneur dépend de l'intensité ou de la force que nous accordons à la volonté du Seigneur. Nous avons lu dans Deutéronome 30, verset 14, cette parole est dans vos bouches. Et puis la Bible dit, dans vos cœurs, et vous pouvez la mettre en pratique. Nous devons nous battre pour lui être fidèles. Mais nous ne nous battons pas notre force. Deutéronome verset 16, 30 verset 16, la Bible dit, car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas être en possession. Et tout ça s'est fait par notre force. On n'est pas des chrétiens à croiser les bras. La Bible dit résister. Pardon? Voilà, il y a toutes les réponses. Mais on doit résister au diable et au péché, et fuir les péchés. C'est une force qu'on doit appliquer aussi. Donc on n'est pas les chrétiens à croiser les bras, parce qu'on aime le Seigneur, on fait ce qui est bon à notre Père. Je vois bien mes enfants, quand j'arrive, s'ils faisaient une bêtise, le fait que je les garde devant la maison, pour arranger ce qui n'était pas correct à mes yeux. C'est-à-dire, il faut un effort que je trouve la maison telle qu'on l'avait laissée. Devant notre Père, on doit faire la même chose. C'est notre force qui en dépend. Et enfin, de toute ton intelligence, de toute ta pensée. Pierre 3, verset 8 à 9. Enfin, soyez tous animés de mêmes pensées et de mêmes sentiments, pleins d'amour éternel, pardon, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est là que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. C'est-à-dire qu'on doit aimer le Seigneur de toutes nos pensées. Dans notre pensée doit habiter quoi? L'amour, la compassion. C'est ça aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Voilà, ça c'était la première partie qu'on ne fait souvent pas attention. Et la deuxième partie, pour aller vers la conclusion de ma prédication, c'est l'amour du prochain. Et là, ça pose un problème au docteur de la loi. Mais la réponse est quoi? Tu aimeras ton prochain comme soi-même. En fait, dans cette relation, il y a des parties. Premièrement, il y a une relation qui est en boucle envers soi-même, et puis une relation horizontale qui va vers l'autre. La Bible ne dit pas de commencer à aimer l'autre. Ça ne sert à rien d'aimer l'autre si on n'aime pas soi-même. Qu'est-ce qu'on donnera à l'autre si on n'est pas capable envers nous-mêmes? Il est possible que les sacrificataires, ou bien les prêtres, ou les lévites, aient des raisons de ne pas s'arrêter devant la victime, parce qu'il y avait la loi qui interdisait, bien sûr, aux sacrificataires ou aux prêtres de toucher les cadavres, de peur de se rendre impur. Mais cependant, le Seigneur ne loue pas les sacrificataires parce qu'il a respecté la loi. Il va louer un païen qui a respecté l'amour. Donc, c'est comme si le Seigneur nous montrait qu'on peut décider, on a le pouvoir de décider, de choisir qui est notre prochain. Et c'est là au-delà de l'observation même de la loi biblique, de nos habitudes de venir au culte. Au-delà de tout cela, de donner les offrandes, d'être religieux, on doit premièrement avoir quoi? De l'amour. Ça ne sert à rien de respecter la loi si on n'a pas l'empathie. C'est comme si ça ne servait à rien de lire la Bible chaque jour si on n'a pas l'amour. La loi n'est pas primordiale que l'amour du prochain. C'est ce que peut-être je comprends ici. C'est pourquoi même Jésus a violé les sabbats. Et pour les juifs, c'était scandaleux. Et il les a posé la question, qu'est-ce qui est bien? De respecter les sabbats, ou de sauver une personne? Donc toutes raisons sont bonnes pour ne pas faire la volonté de Dieu. Si on prend les cadets, sacrificataires et du prêtre, on peut y avoir des raisons, ils ne pouvaient pas s'y rendre impur. On n'a peut-être pas assez de temps pour prendre le temps de prier pour les problèmes des autres. Je n'ai pas assez de temps, c'est vrai qu'il faut courir. Il faut dormir à 22h, demain je travaille. On n'a peut-être pas assez de temps parce qu'on n'a pas assez de moyens pour partager. Je dois payer mes factures aussi. Vous comprenez que ce n'est pas quand même évident. J'ai déjà fait mon budget, donc peut-être le mois prochain, mais c'est moi ici. Je vais mourir. Je n'ai pas assez d'huile et de vin. Pour m'arrêter, je suis pressé. Je n'ai pas assez de temps. Toutes les raisons sont bonnes. Et ça se justifie aussi. Mais c'est ça la volonté du Seigneur. Il ne suffit pas d'être présent à l'église, peut-être. Ça ne suffit pas. C'est pourquoi j'ai posé la question tout au début. Pourquoi venir moi à l'église? Pendant la méditation, je me suis posé pas mal de questions. Et je me suis rendu compte, c'est vrai que partager la parole de Dieu, c'est premièrement se poser la bonne question, c'est soi-même. Donc la volonté de Dieu passe par l'acceptation premièrement de Jésus-Christ, comme nous avons lu dans les Colossiens 1:20, car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils, et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. Ça veut dire quoi? Nous ne pouvons pas donner l'empathie du Seigneur si on n'a pas le Seigneur en nous. Nous ne pouvons pas donner l'amour du Seigneur si on n'a pas l'amour de Dieu en nous. On est incapable d'apporter l'aide comme les bons samaritains. Au lieu de dire les bons samaritains, on peut dire un bon chrétien si on n'a pas le Christ en nous. Nous ne devons pas avoir peur de l'empathie ou de la compassion à l'égard des autres. C'est ça la volonté de Dieu. Peut-être que pour finir, on peut se dire, on pose une question de savoir, mais est-ce que je vois les victimes? Ou bien la question que je peux encore poser, entendez-vous des cris, des gens qui pleurent? Voyez-vous les gens qui sont restés au bord de la route où tout le monde passe? Est-ce que nous passons aussi comme les prêtres? Nous passons aussi comme les sacrificateurs ou nous nous arrêtons? Le voleur ne vient que pour détruire, égorger, tuer. Mais ce qui fait les diables, spirituellement aussi, les diables, ils détruisent beaucoup de vies. Nous passons parfois notre chemin. Nous ne nous arrêtons pas. Peut-être une minute, ça suffirait de prière pour les autres. Une minute, ça suffirait d'avoir ton emploi du temps pour dire, aujourd'hui, avant de dormir, je ne prie pas pour moi, je prie pour l'Église. Une minute, ça suffirait peut-être pour passer un coup de téléphone à quelqu'un d'autre. Ça nous suffirait peut-être de partager le peu que nous avons à une autre personne. Ça nous suffirait peut-être de passer les temps avec les autres, écouter les paroles des autres. Voilà, pour finir, nous venons ici pour notre salut. La réponse que le docteur nous a posée, que faire pour recevoir la vie éternelle? Nous venons ici pour recevoir la vie éternelle, parce que la Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume. Hein? Le royaume de Dieu et la justice de Dieu et toute autre chose seront données par-dessus. C'est ainsi la volonté de Dieu de chercher premièrement le royaume de Dieu. Et cela passe par la compassion. L'obéissance de sa loi se renferme dans l'amour. Non pas seulement l'amour qu'on a envers notre Dieu, mais l'amour qu'on a aussi envers notre prochain. Peut-être pour finir, dernière chose, je vais dire. Il est à la tête du corps, Colossiens qu'on a dit, il est à la tête du corps, qui est l'Église. C'est en lui que commence la vie nouvelle. Il est le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tous les premiers rangs. Car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils, et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par la mort de son Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, soit sur la terre, soit dans le ciel. Voilà ce que Dieu nous appelle à faire, d'aller avec cette compassion qu'il nous a appris encore aujourd'hui, de partager sa bonne nouvelle. L'huile lui mange de l'esprit, les vins lui mangent du premier miracle de Jésus dans la Bible, de la bonne nouvelle. Voilà ce que les bons samaritains a fait. Sommes-nous des bons amirois ou des bons chrétiens? Amen. 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 Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, merci de nous avoir apporté ta connaissance nouvelle. Nous avons tous besoin de cette empathie et cet amour des âmes qui se perdent, des gens qui crient ou qui souffrent et que nous ne regardons peut-être pas, Seigneur. Nous sommes pris par les temps, par nos occupations, Seigneur. Mais nous avons besoin de ton aide, Seigneur, pour rentrer dans ta volonté et faire ce que nous devons faire sans aucune justification ou prétexte. C'est vrai que nous ne méritons rien, Seigneur, mais par ta grâce, tout est possible. Et nous croyons, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous ouvrons nos cœurs maintenant, Seigneur, à toi. Nous voulons te recevoir dans nos vies, afin de recevoir ton amour et qu'on puisse donner l'amour qu'on reçoit de toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions que le Saint-Esprit communique en nous, Seigneur Jésus, ta présence, ton amour, et qui nous aide